Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait donné, envoyé votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, petit à petit nous arrivons presque à la fin de la Seconda Secundae, la deuxième partie de la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin. Nous en sommes à la question 184. À l'article 5, la question 184 traite de l'état de perfection en général. Donc je passe assez rapidement sur les parties relativement secondaires pour insister sur les parties plus importantes. Alors, article 5, donc les prélats et les religieux sont-ils spécialement dans l'état de perfection, se demande saint Thomas d'Aquin. Alors, il cite un texte très ancien de la glose qui dit qu'il n'y a pas en cette vie d'amour plus parfait que celui auquel les martyrs ont atteint, eux qui ont combattu le péché jusqu'à verser le sang. Cependant, il explique que l'état de perfection requiert la perpétuelle obligation accompagnée de solennité à une vie de perfection. Or, l'une et l'autre condition se vérifient dans le cas des religieux et des évêques. Donc c'est surtout l'évêque, avec un grand E, qui doit être dans un état de perfection. Les religieux, dit saint Thomas, s'engagent par vœu à s'abstenir des biens du siècle, dont il leur était loisible d'user, en vue de vaquer à Dieu plus librement. C'est en cela que consiste la perfection de la vie présente. Donc ici, il fait allusion aux trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. J'ai expliqué souvent, donc le vœu de pauvreté contre la concupiscence des yeux, le vœu de chasteté contre la concupiscence de la chair et le vœu d'obéissance, le plus important, contre l'orgueil. Donc, il précise que les évêques s'obligent à une vie de perfection lorsqu'ils assument l'office pastoral qui les oblige à donner leur vie pour leurs brebis. Donc, les anciens pensaient, avec juste raison, que l'évêque était marié à son diocèse. Tout à fait au début, les évêques ne changeaient pas. Rester dans le même diocèse que leur mort. Bon, après, ça a changé parce que des évêques ont dû être déplacés en fonction des besoins de l'Église. Donc, celui qui, n'étant pas parfait, embrasse l'état de perfection, n'est ni un menteur ni un simulateur. Il ne devient que s'il révoque son propos de perfection. Donc, le minimum des minimums, c'est d'avoir, pour ceux qui sont religieux, pour ceux surtout qui sont évêques, avoir un désir de perfection. Article 6. Tous les prélats sont-ils dans l'état de perfection? Et il répète la même chose. Vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi saint Thomas répète souvent les mêmes choses, justement pour approfondir, pour enfoncer le clou un peu plus chaque fois. Donc il répète, la perfection appartient en soi aux seuls évêques. L'ordre des pontifes, donc des évêques, a mission de consommer, de conduire à la perfection, alors que celui des prêtres a le rôle d'illuminer et d'éclairer, celui des diacres de purifier et de discerner. Donc en haut, l'échelle, si vous avez les pontifes, donc les évêques, dont le rôle est de conduire à la perfection, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, donc l'évêque doit avoir cette perfection. Le prêtre, lui, a le rôle d'illuminer et d'éclairer, de montrer la voie qui mène par l'évêque à la perfection, le diacre et purifie et discerne. Mais en soi, la perfection n'appartient qu'aux seuls évêques. Donc celui qui reçoit un ordre sacré, l'ordre sacré c'est le sous-diaconat, le diaconat, la prêtrise, celui qui reçoit un ordre sacré n'est pas placé à proprement parler dans l'état de perfection, bien que la perfection intérieure soit requise pour exercer dignement ces sortes d'actes. S'il fallait exiger de tous les prêtres qu'ils soient parfaits pour être ordonnés prêtres, il n'y aurait pas beaucoup de prêtres. En tout cas, moi j'y serais pas. Donc tous les prélats ne sont pas dans l'état de perfection, mais seulement les évêques. Donc l'évêque est dans l'état de perfection. C'est pour ça qu'au début de l'histoire de l'Église, on allait chercher les moines pour devenir évêque. La plupart des grands évêques au début étaient souvent des moines, pas toujours, mais très souvent, qui avaient déjà atteint une grande sainteté de vie dans la vie monastique. Donc, de même que nous avons dans les apôtres les prototypes des évêques, nous avons dans les 72 disciples celui des prêtres de second ordre. Donc, l'évêque est à l'apôtre, ce que le prêtre est au disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la charge épiscopale de l'évêque donc est conférée par une solennelle consécration, tandis que les charges des prêtres et des curés le sont par simple injonction. Bien montrer la différence. Alors saint Thomas va plus loin en se posant la question 184 article 7, se posant la question de savoir qu'est-ce qui est le plus parfait, l'état religieux ou l'état épiscopal. Et donc il va répondre en disant que l'état de perfection est supérieur chez les évêques à ce qu'il est chez les religieux. Le Seigneur commença par demander à Pierre s'il l'aimait, et lui confia ensuite seulement la charge du troupeau. Donc la triple profession d'amour, de charité de Saint-Pierre à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ précède la nomination de Saint-Pierre comme premier pape par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la charité doit déjà être là, il y a la perfection, et ensuite il peut lui confier le vicariat suprême. Que l'évêque donc soit le premier pour l'action, qu'il soit néanmoins plus que personne attaché à la contemplation. L'évêque ayant un rôle actif très important doit avoir donc une vie de contemplation proportionnée à son état. Article 8, comparaison des religieux avec les curés et les archidiacres. Alors, je passe assez vite. Voilà ce que dit saint Thomas. Il semble, dit-il, que les religieux soient plus parfaits que les curés et les archidiacres. Donc, en quelque sorte, il y a une hiérarchie. Au sommet, les évêques, puis les religieux, ceux qui sont sous les trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, et ensuite les curés et les archidiacres, qui ne sont pas forcément sous les trois vœux. Tous les curés et les archidiacres sont tous sous le vœu de chasteté, qui est obligatoire pour tous ceux qui sont clairs, au moins à partir des ordres sacrés du sous-diaconat et au-dessus. Mais moi, par exemple, en tant que prêtre séculier, je ne suis pas sous vœu de pauvreté, je suis sous esprit de pauvreté, esprit d'obéissance, bien sûr. Même si j'ai malheureusement pas de supérieur direct au-dessus de moi à cause de la situation actuelle de l'Église. La vie religieuse, dit saint Thomas, est la plus difficile quant à la nature de l'œuvre à accomplir en raison de la rigueur de l'observance religieuse, de l'observance régulière. Mais le clerc, dans les ordres sacrés, s'il fait quelque chose de contraire à la sainteté, pêche plus gravement, toute chose égale d'ailleurs, que le religieux non engagé dans les ordres sacrés. Parce que l'engagement dans les ordres sacrés implique une obligation de viser une perfection de façon plus forte. L'état de celui qui a charge d'âme est donc plus périlleux que celui du moine. Le moine n'a pas charge d'âme strictement parlant, alors que le prêtre et l'évêque encore plus que lui a charge d'âme. Donc les curés ou archidiacres, quand ils entrent en religion, abandonnent la charge pour acquérir la perfection de l'état, ce qui montre bien la supériorité de la vie religieuse de ce côté-là. Donc ça dépend sous quel angle on se place. Ce sont donc ainsi les religieux qui ressemblent le plus aux évêques. Ça veut dire qu'ils sont évêques, qui ressemblent aux évêques. À la question 185, donc celle qui suit, saint Thomas va cette fois-ci parler de l'état épiscopal. Alors, c'est encore une fois des questions qui ne sont pas très importantes. Donc, je vais aller assez vite en essayant de m'arrêter sur les parties, les phrases clés. Alors, le premier article de cette question 185, est-il permis de désirer l'épiscopat ? Bien entendu, est-il permis de désirer l'épiscopat sans tomber dans l'orgueil ? C'est ça que ça veut dire. Donc, saint Thomas va répondre en citant saint Augustin, il ne convient pas de désirer l'épiscopat.
Désirer l'épiscopat pour les avantages qui s'y trouvent joints, c'est manifestement illicite. Quant à désirer l'épiscopat pour le rang élevé qu'il procure, c'est tout simplement de la présomption, donc c'est de l'orgueil. Et il cite, saint Thomas cite saint Jean Chrysostome une phrase magnifique en disant « La primauté cherche qui la fuit et fuit qui la cherche ». Donc l'autorité cherche celui qui fuit l'autorité par humilité et fuit celui qui au contraire recherche cette autorité. Donc le mot épiscopat parle plus de labeur que d'honneur, dit saint Thomas. Donc celui qui veut commander sans servir ne doit pas s'imaginer être un évêque. Donc l'état épiscopal présuppose la vie parfaite, alors que l'état religieux ne présuppose pas la perfection, il est une voie qui conduit. La perfection appartient à l'évêque dans le sens actif, comme à celui qui perfectionne, et au moins dans le sens passif, comme à celui qui est perfectionné. Donc l'évêque doit avoir atteint déjà l'état de perfection. C'est pour cela, je vous l'ai déjà dit, qu'avant, souvent on allait chercher les moines, et des moines âgés, qui avaient déjà une grande expérience de vie religieuse, de vie de perfection, pour leur demander d'être évêque. Souvent on ne leur demandait même pas parce qu'ils ne voulaient pas. On allait chercher par la peau du cou, on les mettait évêques, on les nommait évêques, parce que justement on utilisait le fait qu'ils avaient déjà atteint la perfection par la vie religieuse. Une phrase importante ici de saint Thomas, pour pouvoir conduire les autres à la perfection, il est requis d'être soi-même parfait, ce qui n'est pas exigé de celui qui doit être conduit à la perfection. Mais si ces présomptions s'estimaient soi-même parfait, ce ne l'est pas de s'appliquer à le devenir. Donc cela peut se résumer par une phrase très fréquente de saint Thomas, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Il faut d'abord se remplir du bon Dieu pour pouvoir le donner aux autres. Donc si personne ne nous impose ce fardeau d'épiscopat, que l'on va que l'étude et à la contemplation, mais s'il est imposé, qu'on s'y soumette par nécessité de charité. On voit très bien dans l'histoire de l'Église combien les papes ont dû batailler, parfois, pour obliger certains moines à accepter l'épiscopat. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient rester dans leur monastère. Je pense par exemple à Saint Pie V, qui était le simple portier de son couvent, et bien, quand il a été nommé évêque, il ne voulait pas du tout prendre le fardeau d'épiscopat. Et des papes ont dû intervenir, taper le poing sur la table littéralement pour obliger au nom de la sainte obéissance le moine à accepter l'épiscopat. Est-il permis, article 2, question plus délicate, est-il permis de refuser absolument l'épiscopat? Ici, saint Thomas répond en citant saint Augustin. S'il arrive que la mère Église, la sainte Église, désire votre secours, vous ne devez pas accueillir cette demande avec un présomptueux empressement, ni la refuser par amour de la tranquillité. Il ne faut pas aller chercher l'autorité. Mais si la sainte Église nous manifeste la volonté du bon Dieu pour nous de devenir évêque, eh bien, il faut accepter avec humilité. Pourquoi? Parce que le bien commun l'emporte sur le bien particulier. Si le fardeau de l'office pastoral nous est mis sur les épaules, dit saint Augustin, ce n'est pas une raison pour abandonner la délectation de la vérité qu'on trouve dans la contemplation. Donc, il faut, si vous voulez, équilibrer la vie active de l'évêque par une vie contemplative très forte. Article 3 de la question 185, faut-il élire le meilleur pour l'épiscopat? Celui qui l'emporte par la dignité, donc l'évêque, doit être tenu pour très vil s'il ne l'emporte en même temps par la science et la sainteté. Et les décrétales, les textes canoniques de l'Église, tout au Moyen-Âge, portaient qu'il suffit de choisir un bon candidat, sans qu'il soit nécessaire toujours de choisir le meilleur. Pas toujours possible de choisir le meilleur, tout simplement parce que le meilleur peut avoir d'autres rôles. Un autre rôle, par exemple, dans un monastère. Donc j'avance, là, assez vite dans cet article-là. Article 4 de la question 185, l'évêque peut-il entrer en religion? Il appartient au pape seul, dit saint Thomas, de dispenser de ce vœu perpétuel par lequel l'évêque s'est obligé à prendre soin de ses sujets lorsqu'il a reçu l'épiscopat. Il est marié à son diocèse. Donc lorsqu'un évêque décide de devenir moine, eh bien, il va en quelque sorte divorcer divorcé d'avec son diocèse. Et donc, il faut une autorisation en principe, une dispense du supérieur, supérieur des supérieurs, c'est-à-dire le pape lui-même, pour qu'il puisse le faire. Donc, il est plus facile, disent les papes, c'est Saint Innocent III qui disait ça, il est plus facile d'accorder à un moine la permission de s'élever à l'épiscopat qu'à un évêque celle de descendre à la vie monastique. Lorsqu'un évêque a été déposé en punition d'une faute et relégué dans un monastère pour y faire pénitence, il ne peut être rétabli dans sa charge. Donc j'avance dans cet article un peu secondaire. Article 5 de la question 185. Est-il permis à l'évêque d'abandonner physiquement ses sujets ? Alors, c'est un peu un doublon de l'article précédent, mais il y a quand même des détails que va rajouter saint Thomas. S'il est possible, dit-il, de pouvoir suffisamment par un autre au salut du troupeau, en l'absence du pasteur, c'est différent. Dans ce cas, il est permis au pasteur de s'éloigner de ce troupeau, de son troupeau, soit pour procurer à l'église quelque avantage, soit pour échapper à quelques dangers personnels. Par exemple, il y a des évêques qui étaient envoyés en mission, comme délégués apostoliques, en quelque sorte, par le pape, pour régler certains problèmes politique ou religieux et politique à la fois dans certains endroits difficiles du monde. Donc c'est de la part du pilote une conduite blâmable d'abandonner son bateau par beau temps, combien plus dans la tempête. Donc il y a des moments où l'évêque n'avait pas le droit d'abandonner son troupeau pour aller faire autre chose pendant un certain temps dans un autre diocèse. Mais l'évêque pouvait être contraint à faire cela par l'autorité supérieure, à savoir celle du souverain pontife. Donc le prélat qui se trouve empêché de pourvoir lui-même aux soins de ses sujets satisfait à ses engagements s'il pourvoit par un autre. Donc en général on nommait un vicaire épiscopal qui prenait la place de l'évêque pendant l'absence de l'évêque. Article 6, est-il permis à l'évêque de posséder quelque chose en propre ? Voilà ce que répond saint Thomas. Les évêques ne s'obligent pas dans leur ordination à vivre sans avoir rien en propre. Pourquoi ? Parce que l'évêque étant... qui n'est pas moine, n'est pas tenu par le vœu de pauvreté. Il est tenu par l'esprit de pauvreté, mais pas par le vœu de pauvreté, qui est le vœu spécifique des religieux, c'est-à-dire des moines. Il est très très difficile, voire même pratiquement impossible, de pratiquer un vœu de pauvreté de façon parfaite quand on vit dans le monde. C'est impossible. Et l'évêque, il est obligé, par la force des choses, de vivre un peu dans le monde, contrairement à un moine qui peut rester cloîtré dans son couvent. Donc les évêques ne s'obligent pas dans leur ordination à vivre sans avoir rien en propre. En outre, ce n'est pas exigé par cet office pastoral auquel ils s'obligent. Les évêques ne sont donc pas tenus à ne rien posséder en propre. La perfection de la vie chrétienne ne consiste pas essentiellement dans la pauvreté volontaire. La pauvreté volontaire est un simple instrument pour acquérir la perfection. Donc on a vu des évêques qui avaient des biens, qui en général allaient très vite utiliser ces biens pour nourrir les pauvres d'ailleurs. La pauvreté volontaire est un simple instrument pour acquérir la perfection. Et en soi, la souveraine perfection est compatible avec l'opulence. On l'a vu dans le cas, par exemple, de grands saints qui étaient en même temps des chefs d'État. Par exemple, Saint Louis, roi de France, Saint Ferdinand, roi d'Espagne. Alors on avance avec l'article 7. L'évêque pêche-t-il mortellement en ne distribuant pas aux pauvres les biens de l'Église? À l'égard de leurs biens personnels, les évêques sont de vrais propriétaires. Dans ces conditions, ils ne sont pas obligés de les donner aux autres. Ils peuvent soit les conserver, soit les distribuer à leur guise. Ils peuvent cependant pécher dans l'usage qu'ils en font, soit par une attache excessive en se réservant plus qu'il ne leur faut, soit en ne subvenant pas aux besoins d'autrui selon que l'existe la dette de la charité. Toutefois, ils ne sont pas tenus à restitution, car ils ont sur ces biens un vrai droit de propriété. Mais à l'égard des biens ecclésiastiques, ils ne sont que des dispensateurs ou des administrateurs. Et donc, c'est évident que la vertu de prudence va intervenir là-dedans. Imaginez, toi par exemple pour moi, imaginez que sous prétexte d'esprit de pauvreté, je me dise, je vends ma voiture et je circulerai en train. D'abord, ça ne va pas forcément me coûter moins cher. Deuxièmement, ça rend mon apostolat beaucoup plus difficile parce qu'il y a tout un apostolat que je fais actuellement qui nécessite une voiture que je ne pourrais plus faire justement parce que je n'ai plus de voiture. Oui, donc, il faut encore la vertu de prudence pour diriger, guider un peu tout cela. Alors, il y a à la fin de l'article donc un point important de saint Thomas. Si le mauvais serviteur se dit « Mon maître tarde à venir », il s'y perce le mépris du jugement de Dieu, et s'il se met à battre ses compagnons, ce qui est le fait de l'orgueil, puis à faire bonne chère avec des ivrognes, à quoi le reconnaît la luxure, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il ne l'attend pas, il le séparera de la société des bons, et il lui assignera sa place parmi les hypocrites, c'est-à-dire en enfer. Donc, la totalité, c'est important, la totalité des biens ecclésiastiques n'a pas à être donnée aux pauvres, sauf le cas de nécessité ou pour le rachat des captifs et les autres besoins des pauvres. On peut, d'après saint Ambroise, aller jusqu'à vendre les vases sacrés. Un cas dans la vie de saint Ambroise, justement, qui a vendu les calices sacrés pour nourrir les pauvres. Article 8 de la question 185. Les religieux élevés à l'épiscopat sont-ils tenus aux observances régulières ? Dire aux observances qu'ils avaient dans le monastère. Au sujet des moines, donc, qui, après avoir longtemps vécu dans les monastères, se trouvent promus aux ordres de la cléricature, c'est-à-dire deviennent prêtres, nous statuons qu'ils ne doivent pas abandonner leur premier propos. Mais, saint Thomas a bien fait les distinctions qui s'imposent. Voilà la sagesse de saint Thomas. S'il se trouve dans la vie religieuse des observances qui ne sont pas incompatibles avec la fonction pontificale de l'évêque et qui contribuent plutôt à sauvegarder la perfection, comme la continence à pauvreté, le religieux, même promu à l'épiscopat, il demeure obligé. Donc aussi à porter l'habit religieux qui est le signe de son obligation. Mais si, parmi les observances régulières, il s'en trouve qu'il soit incompatible avec la fonction de pontife, de l'évêque, comme la solitude, le silence, certaines abstinences ou veilles pénibles, qui le rendraient physiquement incapable d'exercer sa sarge, le religieux promu à l'épiscopat n'est pas tenu de les pratiquer. Donc, il est évident qu'un évêque, avec les responsabilités qu'il a, ne va pas pouvoir garder, par exemple, tout l'office au cœur tel qu'il l'avait alors qu'il était moine dans un monastère. Le particulier devient superflu quand on possède l'universel, mais la disposition est encore nécessaire après l'acquisition de la perfection. C'est-à-dire que même si l'évêque ne peut pas donner tous ses biens, il doit avoir l'esprit de pauvreté. Donc les évêques religieux, par exemple, ne peuvent aucunement posséder des biens propres à cause du fait qu'ils sont moines, même s'ils deviennent évêques en même temps. Alors, question 186, une question plus intéressante. Les éléments essentiels de l'état religieux. Qu'est-ce qui fait l'état religieux ? Donc, il y a 10 articles dans cette question. Les dernières questions de la seconda seconde sont assez longues. Article 1 de la question 186. L'état religieux est-il parfait ? Donc, et saint Thomas va répondre en précisant ce qu'il a déjà dit auparavant. Les religieux sont dans l'état de perfection. Donc la perfection consiste pour l'homme dans l'union totale à Dieu. Et dans ce sens-là, c'est ainsi que l'état religieux désigne un état de perfection. Mais se consacrer tout entier, personne et bien, au culte divin, relève de la perfection. C'est surtout le but des trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Les religieux sont-ils tenus d'observer tous les conseils évangéliques, donc les trois vœux. Chaque religieux s'oblige à certaines œuvres déterminées, l'un à celle-ci, l'autre à celle-là. Ils ne sont donc pas tenus tous à toutes. Cela va dépendre de l'ordre dans lequel ils sont rentrés. La perfection de la charité, cependant, est la fin de l'état religieux. Il est évident que celui qui travaille en vue d'une fin n'est pas obligé de l'avoir déjà obtenue. Ce qui est requis, c'est qu'il y tente par quelques moyens. Donc lorsque saint Thomas dit que les religieux sont dans l'état de perfection, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le religieux est dans un état de vie qui l'oblige à viser constamment à la perfection. Celui qui embrasse l'état religieux n'est pas obligé de posséder la charité parfaite, mais d'y tendre et de s'y employer. On ne peut pas demander à un religieux qui commence à vivre religieuse d'avoir déjà atteint la perfection, ce n'est pas possible. Et donc, il le dit sous une autre forme, en réponse à la première objection. Celui qui entre en religion, c'est-à-dire celui qui entre dans un monastère, ne fait pas profession d'être parfait, mais de travailler à le devenir. Pas plus que celui qui entre à l'école ne fait profession d'être savant, mais fait profession d'étudier pour le devenir. Le religieux donc ne viole pas sa profession s'il n'est point parfait, mais seulement s'il dédaigne de tendre à la perfection. Donc il y a un devoir grave pour tout religieux de tendre à sa perfection. Notons que le mot religieux ici a un sens canonique très précis. Le religieux, c'est le moine, d'accord ? La vie qui suit la vie régulière et pas la vie séculière. Moi, je suis prêtre séculier, ça veut dire que je vis dans le siècle. Article 3, la question 186, la pauvreté est-elle requise à l'état religieux ? Donc, dit saint Thomas, il convient pour ces religieux, pour ceux qui sont dans l'état religieux, plus directement, de tout abandonner en fait des biens extérieurs par la pauvreté volontaire. Donc l'afflux des richesses active la flamme et la convoitise en devient plus vive. C'est la phrase de notre Seigneur, à Matthieu chapitre 19. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Ceux qui veulent donc amasser des richesses tombent dans la tentation et dans les pièges du diable, dit saint Paul. Ceux qui recherchent le royaume de Dieu et sa justice ne doivent donc pas s'inquiéter de manquer du nécessaire. Dieu pourvoit. Et j'en sais quelque chose en tant que prêtre. Beaucoup de gens pensent que, évidemment, surtout dans le milieu non monaco, ben, si on abandonne la vie religieuse, si on abandonne la société religieuse dans laquelle on est, bon, on n'aura plus de quoi vivre. Et je peux vous dire une chose, je suis bien placé pour le savoir, le bon Dieu s'occupe de ses prêtres, n'abandonne pas ses prêtres. Même dans les petits détails, moi je me rends compte par exemple, d'un seul coup je me retrouve avec une facture qui me tombe dessus qui n'était pas prévue parce que je viens à l'accrochage avec ma voiture et je dois changer l'aile de la voiture, c'était pas prévu. Bon, ben, ça rate pas, je commence une neuvaine à Saint-Joseph, et dès le deuxième jour de la neuvaine, je reçois un chèque qui correspond à l'argent dont j'ai besoin pour réparer ma voiture. Bon Dieu s'occupe de ses prêtres. Alors ici, il y a des phrases magnifiques, donc, dans cet article 3 de la question 186, c'est un texte très beau de saint Thomas, je vous le lis maintenant. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc, à la félicité de la vie active, qui consiste en des opérations extérieures, la richesse concourt à titre d'instrument. En revanche, la richesse a peu de valeur pour la félicité de la vie contemplative. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que ceux qui sont en vie active ont besoin de choses matérielles. Mais par contre, plus on est ancré dans la vie contemplative, moins on a besoin de choses matérielles. Donc, la richesse a peu de valeur pour la félicité de la vie contemplative. Elle est même plutôt un empêchement. En tant que son souci empêche la tranquillité de l'âme nécessaire par-dessus tout à celui qui contemple. Beaucoup de nos choses sont nécessaires pour l'action. L'homme qui contemple n'a pas besoin de tout cela. Et c'est Aristote qui disait ça. On est compte, un païen 4 siècles avant notre Seigneur. Parce qu'il disait, beaucoup de choses sont nécessaires pour l'action, mais l'homme qui contemple n'a pas besoin de tout cela. Il n'a pas besoin des biens extérieurs indispensables pour l'action, ils sont des obstacles à la contemplation. Parce qu'il disait un païen. Et Aristote avait été déjà arrivé à une certaine contemplation de la vérité, même s'il n'était pas parfait. Donc saint Thomas a conclu en disant qu'il est difficile de conserver la richesse, la charité parmi les richesses. Rappelez-vous ce qu'il a dit, qu'il est plus difficile pour un riche de monter au ciel que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc l'état épiscopal n'est pas ordonné à l'acquisition de la perfection, mais à partir de la perfection supposée acquise, à gouverner les autres par la dispensation des biens, non seulement spirituels, mais aussi temporels. Rappelez-vous ce qu'il a déjà expliqué, que le religieux est sur le chemin qui le mène à la perfection, il a le devoir de se battre jour après jour pour devenir parfait, alors que l'état épiscopal demande déjà la perfection avant d'être dans l'état épiscopal. Ensuite, après la pauvreté, il va parler de la continence, deuxième vœu, le vœu de chasteté. Question 186, article 4. La continence est-elle requise à l'état religieux ? Demande saint Thomas. La perfection de l'état religieux exige la continence. N'oublions pas que, à partir du sous-diaconat, tous les clercs sont tenus à cette vertu de continence parfaite. La pratique de l'union charnelle empêche, dit saint Thomas, l'âme de se consacrer totalement au service de Dieu. À cause de la violence des délectations dont l'expérience fréquente accroît la convoitise. La pratique de la vie sexuelle retire l'âme de cette parfaite intention de tendre à Dieu. Attention, faut pas faire dire à saint Thomas le contraire de ce qu'il dit. Il dit pas que la pratique de la vie sexuelle est une chose mauvaise. Elle est une chose mauvaise pour ceux qui ne sont pas dans la vie matrimoniale. La pratique de la vie sexuelle est une chose bonne pour ceux qui sont dans la vie conjugale. Pourquoi ? Parce que le but du mariage, à savoir la procréation des enfants, d'envoyer les élus au ciel, n'est pas possible sans cette pratique de la vie sexuelle. Cependant, il y a des phrases très intéressantes de saint Augustin. Il parle pour les religieux. « Je ne connais rien qui précipite de sa citadelle une âme virile comme les séductions de la femme et ce contact des corps sans lesquels on ne peut posséder son épouse. Ensuite, à cause du souci qu'apporte à l'homme le gouvernement de la femme, des enfants et des biens temporels que demande leur entretien, à cause de cela, donc, les guises demandent aussi aux religieux la continence. Voilà. » Donc, ce que dit saint Thomas, c'est que l'état matrimonial empêche une contemplation parfaite, parce que justement à cause de la violence des plaisirs que le bon Dieu a voulu pour les gens qui se sont mariés à cause de l'acte conjugal. Il était impossible, dit saint Thomas, que sans leur faire tort, des maris abandonnent leur épouse, alors que les hommes peuvent abandonner leur richesse sans faire de tort. C'est pourquoi il ne séparera pas de sa femme Pierre qu'il avait trouvé marié. Cependant, il détourna en mariage Jean qui s'y disposait. Certains pères pensent que les noces de Cana, par exemple, aux noces de Cana, celui qui devait être marié, c'est là qui pensait que c'était saint Jean. En fait, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que saint Jean est l'apôtre vierge. Mais ces mêmes pères pensent, ça c'est acceptable, que saint Jean se préparait au mariage. Est-ce qu'il était fiancé? On ne sait pas. Il se préparait au mariage et que notre Seigneur Jésus-Christ lui a déconseillé le mariage. Alors qu'au contraire, il a pris Pierre qui était déjà marié. Il était marié, il avait même une fille, qui est devenue une sainte d'ailleurs, je me souviens de son exemple, c'est sainte Pétronille. Chez les anciens pères, c'est la preuve d'une très grande vertu que de posséder la perfection de l'âme dans la richesse et dans le mariage. Il est évident que dans la richesse et dans le mariage, on peut se sauver. Il y a des gens très riches qui se sont sauvés, des rois qui avaient une certaine aisance financière, qui se sont sauvés, qui sont eux-mêmes de grands saints, mais c'est plus difficile que dans la vie monastique. Donc après avoir parlé de la continence, de la vie de pauvreté, donc du vœu de pauvreté, du vœu de chasteté, évidemment, il reste le dernier, l'obéissance. Donc, article 5, l'obéissance est-elle requise à l'état religieux? Et là, il ne va pas par quatre chemins. La vertu la plus louée chez le Christ, c'est l'obéissance. Donc, en soi, le vœu d'obéissance est plus important des trois. Ça ne veut pas dire que le vœu de pauvreté et le vœu de chasteté ne sont pas importants, mais la vertu d'obéissance est plus importante. On ne peut rien donner à Dieu de plus grand que de soumettre sa volonté propre à celle d'un autre à cause de lui. Donc il est bien plus parfait de donner ce qu'on est que de donner ce qu'on a. De donner sa volonté propre, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Article 6 de la question 186, est-il requis que ces trois dispositions soient sanctionnées par des vœux? Donc là, il va parler des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, de l'obéissance. Alors, il répond directement, le vœu est requis à l'état de perfection. Ici, saint Augustin, ne regrette pas de t'être lié par un vœu. Réjouis-toi plutôt de n'avoir plus le droit de faire ce que ne t'était permis qu'à ton détriment. Heureuse nécessité qui oblige au meilleur. N'oublions pas que celui qui est protégé par les trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance est quelqu'un qui possède la véritable liberté. Celui qui est parfaitement libre, c'est qui ? Celui qui est parfaitement libre, c'est celui qui est détaché des trois concupiscences. Celui qui est sous l'emprise des concupiscences constamment de la chair, des yeux et de l'orgueil, il n'est pas libre, il est esclave de ses concupiscences. Celui au contraire qui, par la pratique de ses vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, domine complètement avec la grâce du bon Dieu les trois concupiscences, celui-là trouve la véritable liberté. Donc celui qui est vraiment libre, c'est qui ? C'est le moine dans son couvent. Article 7. Alors là, je vais passer plus de temps, c'est un des plus beaux articles de ce traité de la des états de perfection. C'est mon point de vue personnel. Article 7 de la question 186. Ces trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, suffisent-ils? Il y a des passages splendides de saint Thomas. Donc il va expliquer pourquoi les trois vœux de pauvreté, chasteté, obéissance suffisent à l'état de perfection. Donc il va aller successivement sur les trois vœux. Voilà ce qu'il dit sur chacun de ces trois vœux. Premier vœu. En tant qu'exercice de perfection, il est nécessaire que le religieux se débarrasse de ce qui pourrait empêcher sa volonté de tendre à Dieu tout entière, en quoi consiste la perfection de la charité. Or, ces obstacles sont au nombre de trois. Il y a d'abord l'amour des biens extérieurs. Le vœu de pauvreté l'abolit, justement, en coupant le religieux des biens matériels extérieurs. Et ensuite, la convoitise des jouissances sensibles, au premier lieu desquelles se place la volupté charnelle. Le vœu de continence les exclut. Et enfin, le dérèglement de la volonté humaine, le vœu d'obéissance l'exclut. Donc, il montre bien que les trois vœux, de pauvreté, chasteté, obéissance, permettent le contrôle beaucoup plus parfait des trois concupiscences. Donc, contrôle de l'amour des biens extérieurs par le vœu de pauvreté, contrôle de la convoitise des jouissances sensibles par les, surtout des voluptés charnelles par le vœu de continence, et enfin, le dérèglement de la volonté humaine est placé sous protection, avec une espèce de garde de protection par le vœu d'obéissance. Donc, en tant qu'exercice de perfection, il est nécessaire que le religieux se débarrasse de tout ce qui pourrait empêcher sa volonté de tendre à Dieu tout entière, en quoi consiste la perfection de la charité. Deuxièmement, le trouble des soucis du siècle envahit l'homme sur tous ces trois points. Donc, il va expliquer maintenant que les trois vœux vont libérer l'homme, le religieux, des soucis du siècle. Le premier point est la gérance des biens extérieurs. Le vœu de pauvreté volontaire délivre de ce souci. Deuxième, souci du siècle, le gouvernement de sa femme et de ses enfants. Le vœu de continence en dispense. Et enfin, le troisième est le conduit de sa propre vie. Le vœu d'obéissance y pourvoit, par lequel on se remet au gouvernement d'un autre. Donc les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance permettent de ne plus être troublé par les soucis du siècle. Donc les trois vœux permettent de se débarrasser de tout ce qui bloque, si vous voulez, la volonté qui veut se donner entièrement à Dieu, qui empêche donc la perfection de la charité. Deuxièmement, les trois vœux vont permettre d'éviter les troubles et des soucis du siècle qui envahit l'homme, qui est obligé de plaire aux choses matérielles, à des choses matérielles, s'il n'est pas religieux. Enfin, troisièmement, il faut faire l'holocauste, c'est-à-dire l'offrande à Dieu de tout ce qu'on possède. Or, l'homme possède un triple bien. Et là, il va citer encore Aristote. Oui, on voit à quel point Aristote était arrivé proche de la vérité, même s'il était encore un païen. Donc, triple bien. Premier bien, les biens extérieurs. Par le vœu de pauvreté volontaire, le religieux les offre à Dieu totalement. Deuxième bien, l'ensemble des jouissances dans son corps et le siège. Le religieux renonce pour Dieu principalement par le vœu de continence, où il s'interdit tout usage volontaire des plus grandes délectations corporelles. Enfin, troisième bien, le bien de l'âme. On l'offre totalement à Dieu par l'obéissance, grâce à laquelle on offre à Dieu sa volonté propre, par laquelle l'homme est maître de toutes les puissances et les habitudes de son âme. Vous voyez ? Donc, saint Thomas explique bien la nécessité de ces trois vœux de chasteté, pauvreté et d'obéissance et comment ces trois vœux, s'ils sont bien pratiqués, protègent complètement parce qu'ils permettent à ce moment-là à la volonté de tendre à Dieu de façon beaucoup plus parfaite dans la perfection de la charité, de se libérer des troubles, des soucis du siècle qui envahissent l'homme et de faire l'offrande de sa volonté propre par le vœu d'obéissance. Et cet article, je trouve magnifique. Alors, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, en quoi cet article regarde-t-il les gens qui sont mariés? Eh bien, vous n'êtes pas tenu dans le mariage, évidemment, au vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, mais vous êtes tenu à l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Il existe une chasteté conjugale, il existe une obéissance conjugale, il existe une pauvreté familiale. faut pratiquer l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Attention, on ne sauve pas son obéissance. Un homme, par exemple, un enfant qui n'a jamais appris à obéir, sera un piètre chef, sera incapable de commander. Un enfant qui n'a pas appris la vertu de chasteté dans son enfance, ben, sera un adulte qui va être ballotté constamment par les tentations d'impureté. Un enfant qui n'a jamais pratiqué l'esprit de pauvreté comme gamin sera l'esclave des choses mondaines. D'où l'importance de l'éducation. Alors, l'article 8 de la question 186 est aussi très important. C'est certainement parmi les plus beaux articles du traité sur les états de perfection. Donc, l'article 7 et l'article 8. Je vous rappelle que l'article 7, je retrouve le titre, « Les trois vœux suffisent-ils ?» Donc, il a expliqué. Maintenant, il va aller un peu plus profondément dans la question avec l'article 8 de la question 186 en comparant les trois vœux. Donc, pauvreté, chasteté, l'obéissance. Alors, après avoir expliqué l'importance de ces trois vœux, il montre que l'obéissance est à mettre au-dessus des sacrifices. Dans le sacrifice, c'est la chair d'un autre. Dans l'obéissance, c'est sa propre volonté qu'on immole. Donc, le vœu d'obéissance est le principal parmi les vœux de religion. Donc, l'esprit d'obéissance, des trois esprits qui doivent exister dans une vie familiale, une vie conjugale, pauvreté, chasteté, obéissance, l'esprit le plus important, c'est l'esprit d'obéissance. Et pas simplement pour la femme, qui évidemment doit, comme conséquence du péché originel, se retrouver sous l'autorité de son mari, mais le mari lui-même doit pratiquer la vertu d'obéissance par rapport à ses obligations et ses devoirs de chef de famille. On parle toujours, beaucoup trop à mon avis, des droits des chefs de famille. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'avoir des droits, le chef de famille a des devoirs. Et s'il refuse de remplir ses devoirs, il n'a aucun droit, il perd tous ses droits, d'une certaine façon. Alors, saint Thomas va expliquer pourquoi le vœu d'obéissance est le principal. Il donne trois raisons. Premièrement, parce que dans le vœu d'obéissance, l'homme offre à Dieu quelque chose de plus grand que le reste. Il offre sa volonté, dont la valeur surpasse celle de son corps qu'on offre à Dieu par le vœu de continence, mais celle des biens extérieurs qu'il offre à Dieu par le vœu de pauvreté. Donc, c'est plus grand, une plus grande chose de donner sa volonté propre que de donner ce qu'on a, les biens matériels que l'on possède. Deuxièmement, le vœu d'obéissance, d'après saint Thomas, contient les autres vœux, tandis que la réciproque n'est pas vraie. Celui qui a l'obéissance parfaite, le moine qui a l'obéissance parfaite, aura le vœu de pauvreté et de chasteté. Mais celui qui peut, quelqu'un peut avoir le vœu de pauvreté, peut avoir le vœu de chasteté, le remplir correctement et ne pas avoir l'obéissance. Enfin, troisième raison, dit saint Thomas, le vœu d'obéissance vise proprement des actes qui sont tout proches de la fin même de la vie religieuse. Donc l'état religieux est supérieur même à la virginité consacrée par un vœu. Je conseille ceux qui ont la somme de lire le texte complet de ces deux questions, de ces deux articles, article 7 et article 8 de la question 186 de la Seconda Secundae. Et on avance avec l'article 9 de la question 186. Les religieux commettent-ils un péché mortel toutes les fois qu'ils transgressent leurs règles? Et là, il y a encore des phrases magnifiques de saint Thomas. Voilà ce qu'il dit. L'état religieux, est plus sûr que la vie séculière. Saint Grégoire compare donc la vie séculière à la mer agitée, la vie religieuse au port tranquille. Mais cependant, il va expliquer, si toute transgression du contenu de la règle religieuse entraînait péché mortel, l'état religieux serait infiniment dangereux à cause de la multitude des observances. Donc toute transgression des prescriptions de la règle n'est pas péché mortel. Encore une fois, il faut qu'il y ait matière grave, connaissance, consentement. Sa transgression, donc, n'entraîne alors un péché mortel que si elle procède du mépris. Le religieux n'est pas tenu à être parfait, mais simplement à tendre à la perfection, ce qui contredit le mépris de la perfection. Donc un religieux qui aurait un mépris de la perfection, un religieux qui ne chercherait pas à tendre à la perfection, pécherait mortellement contre ses obligations. Mais la transgression des autres observances se constitue un péché mortel que s'il y a mépris de la règle. Est-ce que par exemple un religieux qui arrive en retard à un office, est-ce qu'il commet un péché mortel? Non. sauf s'il le fait par mépris ouvert de la règle religieuse. C'est pour ça que dans certains ordres, on fait profession, certains ordres religieux, on fait profession non pas de la règle, mais ce qui est plus judicieux, dit saint Thomas, de vivre selon la règle. Et dans certains ordres religieux, et plus de prudence encore, on professe l'obéissance selon la règle. Mais attention, le péché véniel, si quelqu'un s'habitue dans la vie religieuse à commettre des péchés véniels en disant « Oh, c'est pas mortel, donc je peux le commettre », saint Thomas explique, attention, le péché véniel est lui-même une disposition de péché mortel, en tant qu'il fait obstacle à ce qui nous disposerait à l'observation des préceptes principaux de la loi du Christ, qui sont de la charité, qui sont ceux de la charité. Donc quelqu'un qui avale l'iniquité comme l'eau, même au niveau du péché mortel, se prépare à commettre, même au niveau du simple péché véniel, pardon, donc quelqu'un qui avale le péché véniel sans réaction aucune, eh bien se prépare au péché mortel, ça c'est sûr. Donc il reste que ces religieux peuvent donc pécher, véniellement ou mortellement, si leur conduite procède de la négligence, de la passion ou du mépris de la règle. Par exemple, la fréquence de la faute, faute véniale sous-entendue, dispose au mépris et donc au péché mortel. Article 10 de la question 186. Toutes choses égales et dans le même genre de péché, le religieux pêche-t-il davantage que le séculier ? Une bonne question. Donc il va citer dans les objections une belle phrase. Si tu es lié d'amitié avec les ennemis de Dieu, tu mérites la colère de Dieu. Vous voyez ? Dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es. Donc il semble qu'on doive se désoler davantage des péchés de ceux qui sont dans un état de sainteté, de perfection. Donc un péché, on peut expliquer comme ça, un péché commis par un religieux fait plus de mal au bon Dieu qu'un péché commis par un non-religieux. Un péché commis par un grand ami de notre Seigneur Jésus-Christ fait plus de mal au bon Dieu qu'un péché commis par quelqu'un qui n'est pas un grand ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Pareil pour nous d'ailleurs. On va beaucoup plus souffrir d'une injure qui vient d'un ami que d'une injure qui vient d'un ennemi. Je dirais, l'injure qui vient de l'ennemi ou de quelqu'un qui nous est un peu indifférent passe un peu comme l'eau sur les plumes d'un canard. Au contraire, l'injure qui vient d'un ami nous va rentrer dans la chair, si vous voulez, et va nous blesser beaucoup plus profondément, précisément parce que ça vient d'un ami. Cependant, le péché que commettent des religieux peut être plus grave. Dans certains cas, ce qu'il dit, le péché que commettent des religieux peut être plus grave que le même péché commis par des séculiers. Il donne plusieurs exemples. Si ce péché atteint les vœux de religion, par exemple, si un religieux se rend coupable de vol, le péché contre la pureté, son péché contre la pureté viole le vœu de continence et son vol celui de pauvreté, et non pas seulement le précepte de la loi divine. Ensuite, si ce péché procède du mépris, le religieux, dans ce cas, semble faire preuve de plus d'ingratitude à l'endroit des bienfaits de Dieu qui l'ont élevé à l'état de perfection, parce que le religieux a reçu plus de grâce que le séculier. Enfin, le péché du religieux peut avoir une gravité particulière en raison du scandale donné. Et il conclut avec une citation de saint Augustin. « Depuis que j'ai commencé de servir Dieu, j'ai expérimenté que si j'ai difficilement trouvé des plus saints gens que ceux qui ont progressé dans les monastères, je n'en ai pas rencontré de pire que ceux qui, dans les monastères, sont tombés. » Dans le monastère, c'est un raccourci pour aller au ciel, mais ceci est un raccourci pour aller en enfer si on n'est pas fidèle à ses engagements et à ses vœux. Alors nous allons commencer avec la question 187, donc les activités qui conviennent aux religieux. Donc il y a 6 articles. Là je vais aller assez vite parce que c'est une question relativement secondaire, au moins dans le cadre de ce cours. Article 1 de la question 187 de la seconda secondae. Est-il permis aux religieux d'enseigner, de prêcher et d'exercer d'autres fonctions semblables ? Et donc saint Thomas répond en disant qu'il n'est pas interdit aux religieux de prêcher, d'enseigner, d'exercer d'autres offices semblables. Il y a même des ordres religieux qui sont voués à l'enseignement, à la prédication. Par exemple, l'ordre des dominicains, l'ordre des jésuites. Article 2, est-il permis aux religieux de se mêler d'affaires séculières ? Et il répond en disant que si l'intérêt du prochain l'exige, ils doivent par charité prendre en main ces affaires. Et donc assister dans leur nécessité ceux qui n'ont pas d'appui. Donc Il y a parfois des prêtres qui doivent s'occuper un peu des pauvres et de protéger des pauvres qui sont dans de graves difficultés et gérer un petit peu leurs biens pour les aider à pas trop gaspiller de choses, par exemple. Mais disons tout de suite avec saint Thomas qu'il n'est pas permis ni aux moines ni aux clercs de gérer les intérêts séculiers par cupidité. Ils peuvent, par charité, avec la permission de leur supérieur, s'occuper d'affaires séculières, soit comme agents d'exécution, soit comme conseillers, bien entendu avec la modération qui s'impose. Article 3, donc je vais assez vite sur ces articles qui ne présentent pas de difficultés particulières. Les religieux sont-ils tenus de travailler de leurs mains ? Une seule prière de l'homme obéissant, cite saint Thomas, est plus vite exaucée que 10 000 prières chez l'arrogant. Donc l'orgueilleux peut prier toute la journée, c'est le pharisien de l'évangile qui n'obtient pas ce qu'il veut, il ne sort pas justifié de l'église, alors que le publicain, plein d'humilité, sort justifié. Il y a quelques détails intéressants sur le travail manuel. Donc la question relève du travail manuel. Les religieux sont-ils tenus de travailler de leurs mains, c'est-à-dire faire du travail manuel? Et donc saint Thomas va expliquer pourquoi le travail manuel est important. D'abord pour assurer la subsistance. Bon. Ensuite pour supprimer l'oisiveté, mère de tous les vices, mère d'un grand nombre de maux. Ensuite pour réfréner les désirs mauvais en macérant le corps. Et enfin pour faire l'aumône. Donc travailler pour manger, parce qu'il faut manger pour vivre. Pour supprimer l'oisiveté, malheur à celui qui ne fait rien toute la journée. Pour réfréner les tentations, les désirs mauvais, les trois concupiscences, surtout de la chair, et enfin faire le monde, pratiquer la charité. Donc le travail manuel, en tant qu'il représente un moyen de gagner sa vie, est obligatoire dans la mesure où il est nécessaire pour le moine. Aussi, dit-il, c'est nécessaire pour éviter le vol, pour éviter les honteux trafics par lesquels certains gagnent leur vie. Saint Paul, par exemple, a travaillé lui-même, il fabriquait la toile de tente. Et bien, il a travaillé pour vivre. Et ici de saint Jérôme, les monastères égyptiens ont cette coutume de ne recevoir aucun moine qui ne veuille s'occuper et travailler, moins pour se procurer la subsistance matérielle qu'en vue du salut de l'âme et pour empêcher les pernicieuses divagations de l'esprit. Vous voyez, souvent d'ailleurs, ceux qui ne veulent pas travailler, il y a l'orgueil ou la paresse. Article 4, les religieux ont-ils le droit de vivre d'aumône? Donc la réponse est positive évidemment, puisque le religieux est sauvé de pauvreté. Les religieux peuvent légitimement vivre d'aumône. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au service de l'autel, dit saint Paul aux Corinthiens, ont part au revenu de l'autel. Donc l'autel doit nourrir ses prêtres et ses religieux. Mais s'il se rencontre des religieux qui, sans cette excuse de la nécessité ou des services rendus, prétendent vivre dans l'oisiveté d'aumône destinée aux pauvres, leur conduite est inadmissible. Il n'est pas toujours facile de voir, dit saint Thomas, si c'est le service de Dieu qui les attire ou le désir d'échanger une vie pauvre et laborieuse contre une autre qui les rassurera, sans qu'ils aient à s'inquiéter de rien, le vivre et le vêtement, et par-dessus le marché, la considération de ceux dont ils avaient coutume de recevoir mépris et brutalité. Voyez. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Voyez. Si quelqu'un voulait rentrer en vie religieuse pour avoir une petite vie bien tranquille, sans problème, il se trompe complètement. C'est parfois un petit peu délicat dans les milieux très pauvres, dans certains milieux très pauvres, dans certains pays du tiers-monde, entre autres. Certaines vocations peuvent être déséquilibrées parce qu'ils pensent à la vie religieuse, ils pensent à la vie sacerdotale, au séminaire, parce que le séminaire va leur donner une facilité de vie qu'ils n'ont pas dans leur brousse, où ils vivent avec beaucoup, beaucoup de pauvreté. Article 5, est-il permis aux religieux de mendier ? Et il répond qu'il est convenable pour des religieux de mendier. Mendier devient pour certains un acte louable d'humilité, comme c'en est un d'embrasser certaines pratiques humiliantes à titre de remède efficace contre l'orgueil que l'on veut détruire en soi-même ou par exemple chez les autres. La tendance à s'enorgueillir se traite avantageusement par les excès d'humiliation. C'est pas facile de mendier. Moi, ça m'est pas arrivé souvent de mendier. Bon, je mendie indirectement. Parfois, j'ai plus d'argent, mais je suis bien obligé de faire une petite lettre à mes amis bienfaiteurs pour leur demander un petit peu d'aide. Mais bon, c'est une certaine forme de mendicité, mais quand même très limitée. M'est arrivé des pèlerinages. J'ai fait quelques pèlerinages en tant que séminariste où on devait mendier notre pain tous les jours pour manger. Et on partait sans argent, sans nourriture. C'était pas facile du tout. L'humilité, comme les autres vertus, doit s'accompagner de discrétion. Aussi convient-il de n'exercer qu'avec discernement la mendicité, comme moyen de s'humilier pour ne pas encourir le reproche de cupidité ou de tout autre vice. Encore une fois, la mendicité doit être protégée par l'obéissance. Si on ne fait pas obéissance, il n'y a pas de problème. Article 6, est-il permis aux religieux de porter des vêtements plus grossiers que les autres? Alors ça, c'est un article sans difficulté, voilà ce qu'il dit. Une tunique grossière prouve le mépris du siècle, à condition toutefois que l'âme n'en conçoive pas d'orgueil et que l'habit ne soit pas en désaccord avec le langage. La soutane doit correspondre à une certaine façon de vivre. Bon. Pour s'humilier, pour donner l'exemple, et pas pour un motif de vaine gloire. Hein? Donc un habit rude et grossier, dit saint Thomas, peut être considéré comme dénonçant l'avarice ou la négligence. Voyez? Mais il faut faire un peu attention, pas parce que on est dans la vertu de pauvreté, par exemple, qu'il faut vivre dans la saleté. Pauvreté, oui, saleté, non. Et là, ici, saint Jean Chrysostome, une phrase qui est bien nécessaire d'être comprise par certains fidèles. Celui qui prie ne fera rien d'insolite, qui attire le regard des hommes, comme de crier, de se frapper la poitrine, d'étendre les bras en croix, sauf s'il est seul. Dans sa chambre, vous pouvez le faire, mais pas en public. Quant aux religieux, il y a peu d'apparence qu'ils le fassent par omission, puisqu'ils portent un habit grossier comme signe de leur profession, qui est justement de mépriser le monde. Vous voyez, donc, il y a des choses que peut faire un religieux, parce qu'il est religieux, qu'il est protégé par son habit religieux, que ne fera pas un laïc dans le monde. Alors avançons avec la question 188, les diverses formes de la vie religieuse. Alors ici de Saint Grégoire, si quelqu'un avoue au Dieu Tout-Puissant tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, sa vie, tout ce qu'il aime, si quelqu'un avoue au Dieu Tout-Puissant tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, sa vie, tout ce qu'il aime, une faute d'orthographe dans mon texte, tout ce qu'il aime, virgule, c'est un holocauste. Et sans cela, on ne peut parler de vie religieuse. Donc les trois vœux de religion composent l'essentiel de toute vie religieuse. Donc il n'y a pas de vie religieuse sans les trois vœux. Les œuvres de charité auxquelles l'homme peut s'adonner sont diverses, et diverses aussi les formes, matières de s'y exercer. Donc en fonction de la diversité des fins auxquelles elles sont ordonnées, les choses peuvent changer un petit peu. La diversité des ordres religieux qui tient à la diversité des fins qu'ils poursuivent est plus importante que celle qui tient à la diversité de leur exercice. Donc il peut y avoir plusieurs formes de vie religieuse. La vie religieuse d'un contemplatif n'est pas la même que la vie religieuse d'un ordre militaire qui est plus actif. Donc l'évêque à l'égard de la perfection fait figure d'agent et le religieux de patient. Donc plus l'agent est élevé, plus il tend l'unité. Au contraire, les passions sont multiples. Il est donc normal que l'état épiscopal soit un, alors que les formes de vie religieuse sont multiples. Alors un ordre religieux peut-il avoir pour but des œuvres de vie active? Donc la perfection de l'état religieux consiste dans la contemplation des choses divines. Seulement est-il possible pour certains ordres religieux d'avoir pour but des œuvres de vie active? Voilà ce que pose comme question saint Thomas. Donc il est juste, dit-il, de donner la vie active pour but à certains ordres religieux. L'état religieux est ordonné à la perfection de la charité qui comprend l'amour de Dieu et du prochain. Donc à l'amour de Dieu ressortit directement la vie contemplative où l'on désire vaquer à Dieu seul. À l'amour du prochain ressortit la vie active qui se met au service des nécessités du prochain. Et donc il peut y avoir différentes façons de sanctification dans la vie religieuse selon les différents ordres. Donc, des ordres religieux peuvent être parfaitement institués pour des œuvres de vie active. Donc, puisque ces religieux s'appliquent aux œuvres de la vie active en vue de Dieu, il s'ensuit que chez eux, l'action dérive de la contemplation des choses divines. Ils ne sont donc pas entièrement privés du fruit de la vie contemplative. C'est pour ça qu'une vie active pure pour un religieux n'existe pas. Il y a toujours une contemplation qui soutient la vie active. Les religieux, par exemple, occupés aux œuvres de la vie active, sont dans le monde par leur corps, mais ils n'y sont pas par l'esprit. Car s'ils s'occupent des choses extérieures, ce n'est pas qu'ils cherchent quelque bien dans le monde, c'est uniquement pour le service de Dieu. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas laisser son cœur s'attacher au monde. Quand on dit qu'il faut se garder sans tache à l'égard du monde, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser son cœur s'attacher au monde. Alors saint Thomas va donner certains détails qui peuvent surprendre un peu, mais écoutez bien ce qu'il dit. Article 3 de la question 188, un ordre religieux peut-il avoir pour but de faire la guerre? Et saint Augustin écrit, voilà, citation de saint Augustin, « Ne crois pas que nul de ceux qui portent les armes ne puisse plaire à Dieu. Parmi eux, nous trouvons David, auquel le Seigneur a rendu un beau témoignage. Or, les ordres religieux sont institués pour que les hommes plaisent à Dieu. Rien n'empêche donc d'en instituer en vue de la vie militaire. » Voilà qui plaira bien aux militaires qui m'écoutent, là, qui écoutent saint Thomas. « Donc la fonction militaire est susceptible d'être ordonnée au bien du prochain, et non pas au bien des particuliers uniquement, mais encore à la défense de tout l'État. » Donc le métier des armes peut aussi servir au maintien du culte divin. C'est pour ça qu'il y a eu toujours des ordres militaires, par exemple pour protéger les voies d'accès au pèlerinage, au grand pèlerinage de chrétienté, notamment au pèlerinage de la Terre Sainte. Il y avait les chevaliers de l'ordre de Malte, qui étaient des religieux, mais qui portaient l'armée, qui portaient l'arme pour protéger les laïcs qui venaient faire le pèlerinage. Donc il est donc convenable d'instituer un ordre religieux pour la vie militaire, non certes en vue d'un intérêt temporel, mais pour la défense du culte divin et le salut public, ou encore la défense des pauvres et des opprimés. Donc on peut résister au mal, il y a des phases magnifiques de saint Thomas. Il y a deux façons de résister au mal. La première consiste à pardonner une injure personnelle. Cette manière d'agir peut contribuer à la perfection quand elle favorise le salut d'autrui. Seconde, écoutez bien, la seconde façon de résister au mal consiste à souffrir sans impatience l'injure faite à autrui. Et cela relève de l'imperfection même du vice, si on était capable de résister à l'insulteur. C'est pourquoi saint Ambroise écrit « Ce courage qui à la guerre protège la patrie contre les barbares et chez soi défend les faibles et les familiers contre les bandits, c'est une parfaite justice. » Donc celui qui ne fait rien alors qu'il doit faire quelque chose, celui qui, par une espèce de faux pacifisme, laisse l'ennemi envahir la maison, envahir la famille, eh bien, peut pécher gravement contre son devoir d'État. Il est louable d'abandonner ses propres biens, mais non ceux d'autrui. Moins encore, devons-nous nous désintéresser de ce qui appartient à Dieu. C'est un excès d'impiété de ne pas se soucier des injures faites à Dieu. Celui qui dit rien alors que notre Seigneur Jésus-Christ est attaqué directement est coupable d'un silence pratiquement blasphématoire. Oui, il y a des moments où il faut savoir se taire, mais il y a des moments où il faut savoir parler. Et celui qui parle alors qu'il devrait se taire pêche, mais celui qui se tait alors qu'il devrait parler pêche aussi. Il en est de même pour le métier des armes. L'exercer au bénéfice d'intérêts temporels est contraire à toute vie religieuse, mais non pas s'y engager en vue de servir Dieu. C'est ainsi qu'on enjoint à certains de prendre des armes pour la défense de la Terre Sainte. Article 4, un ordre religieux peut être institué en vue de la prédication des œuvres analogues. Le Christ a envoyé prêcher, dit saint Thomas. Donc, les 12 apôtres et 72 disciples. Les évêques tiennent la place des apôtres et les prêtres, celle des curés. Les évêques tiennent la place des apôtres et les prêtres de second ordre, c'est-à-dire les curés, celle des 72 disciples. Donc comme il est permis d'instituer un ordre religieux pour prendre soin des malades, il est permis d'en instituer pour instruire le peuple par la prédication et les activités analogues. Là, une magnifique phrase de saint Thomas. C'est une œuvre plus relevée. Pareillement, de défendre les fidèles par les armes spirituelles contre les erreurs que propagent les hérétiques et contre les tentations que les démons suscitent, que de protéger le peuple chrétien par des armes matérielles. Ainsi, aussi est-il souverainement convenable d'instituer un ordre religieux pour la prédication et les autres ministères hostiles au salut des âmes. Saint Thomas d'Aquin, n'oublions pas, était un dominicain. Il appartenait à un ordre de prédicateurs, l'ordre des prêcheurs. Article 5. Un ordre religieux peut-il être institué en vue de l'étude? Je vais un petit peu vite pour essayer de terminer tout ça. La vie religieuse, dit saint Thomas, pouvait se proposer comme fin la vie active et la vie contemplative. Donc l'étude des lettres convient parfaitement à la vie religieuse. D'abord au titre de la vie contemplative elle-même, en éclairant l'esprit. La vie contemplative dont nous parlons présentement est principalement ordonnée à la contemplation des choses divines dans laquelle l'homme est dirigé par l'étude. L'étude est absolument nécessaire pour conserver la foi aujourd'hui. En écartant les dangers de la contemplation, à savoir les erreurs où tombent souvent dans la contemplation des choses divines ceux qui ignorent les Écritures. L'ignorance est maîtresse de beaucoup, beaucoup d'erreurs. L'étude des lettres est donc nécessaire, en deuxième lieu, aux ordres religieux institués en vue de la prédication et des ministères analogues. L'étude des lettres convient aux ordres religieux en fonction de ce qui leur est commun à tous. Aime l'étude des Écritures et tu n'aimeras pas les vices de la chair, dit saint Jérôme. Donc l'étude des lettres détourne l'esprit de la pensée de ses dérèglements et elle mortifie la chair par le labeur qu'elle impose. Elle est efficace aussi pour abolir l'amour des richesses, donc la nécessité de l'étude. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a plus que jamais besoin. On a besoin de la prière, de la pénitence, on a besoin des sacrements, mais aussi de l'étude. Surtout aujourd'hui, parce que le poisson pourrit d'abord par la tête. C'est les cerveaux qui sont malades. La France est malade dans son âme aujourd'hui, c'est absolument évident. Et donc manifeste qu'il est parfaitement légitime d'instituer un ordre religieux en vue de l'étude des lettres. L'étude est ordonnée à la science, dit saint Thomas. Sans la charité, celle-ci enfle et produit des dissensions. Mais accompagnée de la charité, elle édifie et engendre la concorde. Donc l'étude seule, sans l'humilité, pousse à l'orgueil. Pousse à l'orgueil. Mais s'il y a l'humilité qui est jointe à l'étude, l'étude à ce moment-là peut être très profitable pour l'âme. Donc elle engendre à ce moment-là, elle édifie, engendre la concorde. Par contre, il faut éviter, dit saint Thomas, ce goût des disputes que les hérétiques et les schismatiques ont introduit dans la religion chrétienne. Donc ici de saint Augustin, pour nous, estimant que nous ne pouvons nous désintéresser de ceux que les hérétiques trompent par la fausse promesse de donner les raisons et la science des choses, nous nous attardons à considérer les chemins par où l'on passe. Encore n'oserions-nous pas le faire si nous ne constations qu'un grand nombre de fils pieux de l'Église ont fait de même et pour ce même motif de réfuter les hérétiques. L'hérésie, si vous voulez, c'est d'abord une maladie de l'intelligence. Alors, je vais arrêter là parce que je pensais avoir le temps de terminer la seconda, mais je ne voudrais pas aller trop vite parce que là, il y a un article très important, c'est l'article 6 de la question 188. Un ordre religieux voué à la vie contemplative est-il supérieur à un ordre voué à la vie active? C'est magnifique et je voudrais plus insister. Et je terminerai aussi par un petit excursus sur la vocation, et notamment sur l'importance de la vie religieuse ou l'esprit religieux pour les enfants. Un texte magnifique de saint Thomas dont je vous parlerai, qui n'est pas dans la somme, mais je voudrais rajouter comme excursus à ce traité sur les états de perfection. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, nos saints anges gardiens. Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.